SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
13h sur Radio SBS, mesdames et messieurs, bonjour. Vous écoutez SBS French, votre programme en français. Je suis Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble au programme aujourd'hui. Comme chaque samedi, la rétrospective. Léo Roussel nous emmène aujourd'hui en 1945 et nous fait revivre l'un des jours les plus sombres de l'histoire lorsque la bombe atomique explosait sur Hiroshima. En deuxième partie d'émission, ce sera la seconde partie de Europa Voice numéro 102. On va se diriger en Italie. Mario Draghi, le Premier ministre, a démissionné. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Italie, pour le pays? On en parle avec Nathanaël Bloch. Mais avant cela, votre journal. Les titres de l'actualité de ce samedi 6 août 2022. Pékin ne décolère pas après la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Les exercices militaires continuent dans le détroit et la Chine s'en prend directement à la chef des députés américains. Des échanges de tirs entre la bande de Gaza et Israël, plusieurs morts dont un enfant et un chef djihadiste. La Turquie et la Russie favorables à un rapprochement de leur pays, tandis que Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de viser la centrale nucléaire de Zaporijjia et Volodymyr Zelensky qui réagit aux accusations d'Amnesty International, vous l'entendrez. Et enfin, du sport avec la victoire de l'Olympique Lyonnais sur l'AC Ajaccio en match d'ouverture de la reprise de Ligue 1, on en parle dans le Journal des Sports. On ouvre ce journal avec les suites de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Pékin avait promis l'enfer si la chef des députés américains posait le pied sur l'île. Des menaces mises à exécution. Après avoir réagi par des manœuvres militaires, la Chine annonce maintenant des sanctions directement contre Nancy Pelosi et sa famille. Pékin qui annonce également la suspension de toute coopération avec les États-Unis dans plusieurs domaines. Zifan Liu pour RFI.
Une nouvelle étape a été franchie dans la dégradation des échanges entre les deux superpuissances. Pékin a décidé de suspendre la coopération avec Washington dans plusieurs domaines, dont celui de la lutte contre le réchauffement climatique, alors que les deux pays sont les premiers pollueurs au monde. Mais surtout, la Chine va annuler un entretien entre dirigeants militaires et deux réunions bilatérales sur la sécurité. Tout cela dans un contexte de tension grandissante après la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, considérée par Pékin comme partie intégrante de son territoire. Ce séjour a été perçu comme une provocation par le régime communiste qui dénonce une atteinte à sa souveraineté. De son côté, Washington ne baisse pas la tête et a convoqué l'ambassadeur chinois pour protester contre les manœuvres militaires de Pékin. L'armée chinoise a lancé des opérations navales et aériennes au large de Taïwan avec pour but de simuler un blocus. Des missiles chinois auraient pour la première fois survolé l'île selon la propagande communiste qui fait état d'opérations d'une ampleur inédite dans la région.
On le disait en titre, la riposte a été presque immédiate. La bande de Gaza a tiré des salves de roquettes vers Israël en réponse aux frappes israéliennes qui ont visé le groupe armé djihad islamique dans l'enclave palestinienne. Guillaume Delteille.
Après quelques jours d'une tension sans violence, les armes ont finalement été utilisées ce vendredi. Dans l'après-midi, l'armée israélienne a bombardé un quartier résidentiel dans le centre de la ville de Gaza. Pour l'armée israélienne, il s'agissait de frappes préventives. C'était une opération de contre-terrorisme précise contre une menace immédiate, a déclaré pour sa part le premier ministre Yair Lapid. Israël affirme avoir tué 15 combattants du djihad islamique. Le ministère de la Santé à Gaza évoque lui 10 victimes, des civils, dont une petite fille de 5 ans, assure. Mais l'un des chefs du djihad islamique a aussi été tué, Taysir el-Jabari, dont les funérailles dans la soirée ont attiré des centaines de personnes. Quelques heures plus tard, des roquettes ont été tirées vers le territoire israélien, plus de 100 selon le djihad islamique. Signe que les combats pourraient se poursuivre, l'armée israélienne a déjà donné un nom à son opération, Obnaissante, et le djihad islamique affirme qu'Israël, qui a commencé cette agression, dit le secrétaire général du mouvement, doit s'attendre à ce que nous nous battions sans relâche, assure-t-il.
Pour tenter de ramener le calme, le Caire propose une opération de médiation et une délégation du djihad islamique pourrait se rendre dans la capitale égyptienne ce samedi. 8 morts et 18 blessés, c'est le dernier bilan en date de l'attentat qui a frappé l'Afghanistan hier. Une bombe a été placée dans une charrette remplie de légumes dans une rue commerçante de Kaboul. Cette attaque mortelle a été revendiquée par le groupe État islamique qui vise une nouvelle fois la communauté chiite. 3 nouveaux chargements de céréales ont quitté l'Ukraine hier, faisant escale en Turquie. Fort de son succès diplomatique concernant ces exportations, eh bien le président turc, Recep Tayyip Erdogan, vient de rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux hommes se sont entretenus 4 heures durant pour finalement décider de se rapprocher. Anissa El Jabri.
Au début de la rencontre, Vladimir Poutine avait déjà souligné ces données. Le chiffre d'affaires commercial russo-turc a augmenté de 57% en 2021. Il a doublé entre janvier et mai cette année. Il pourrait bien s'envoler les prochains mois. Transport, industrie, agriculture, tourisme, haute technologie, construction. Des accords ont été trouvés dans presque tous les secteurs, annonce de la Russie. Point majeur pour Moscou. Et là-dessus, on attend encore des précisions concrètes dans les secteurs aussi de la finance et de la banque, dans l'énergie aussi. La Turquie accepte ainsi le paiement du gaz russe en rouble. Vladimir Poutine avait aussi promis de n'éluder aucune des questions liées à la Syrie, dossier majeur pour Recep Tayyip Erdogan qui cherche depuis des mois à lancer une opération militaire dans le nord de la Syrie. Les deux dirigeants ont sur ce dossier signé une déclaration conjointe. Elle reprend dans une même phrase les deux priorités des deux parties. D'un côté, la Russie et la Turquie se disent attachées à l'unité politique et à l'intégrité territoriale de la Syrie. De l'autre, elle réaffirme, je cite, « leur détermination à coordonner étroitement leurs efforts pour lutter contre les organisations terroristes ».
Et dans le même temps, on le disait en titre, l'inquiétude grandit en Ukraine après des tirs sur la centrale de Zaporijjia, actuellement sous contrôle russe. Moscou reproche à Kiev d'avoir visé un réacteur de la centrale nucléaire, accusant Volodymyr Zelensky de terrorisme nucléaire. Démenti du président ukrainien qui rejette la faute sur son homologue russe. Volodymyr Zelensky qui parallèlement ne décolère pas au lendemain de la publication d'un rapport publié par Amnesty International. Rapport selon lequel l'armée ukrainienne serait coupable de mettre en danger les populations civiles. Pour RFI, Romain Lemaresquier.
Des bases militaires sont installées dans des zones résidentielles. Des attaques sont lancées depuis des secteurs habités par des civils. Ces tactiques de combat violent le droit international humanitaire et mettent gravement en danger la population civile, peut-on notamment lire dans le rapport d'Amnesty International. Des accusations injustes, selon le ministre des Affaires étrangères ukrainien, qui se dit indigné au même titre que Volodymyr Zelensky, car si l'armée ukrainienne utilise bien des bâtiments civils pour y établir des bases arrières, c'est en réponse aux attaques de l'armée russe qui vise justement des zones résidentielles où vivent des civils. Qui plus est, selon les autorités ukrainiennes, les bâtiments concernés ont été préalablement évacués et n'ont plus aucun usage civil. Pour le président ukrainien, ce rapport se base sur une fausse réalité, car la victime et l'agresseur sont d'une certaine manière mis sur un pied d'égalité. Si certaines données sur la victime sont analysées et que les actions de l'agresseur sont ignorées, cela ne peut être toléré, juge Volodymyr Zelensky, même si Amnesty International insiste sur le fait que les tactiques ukrainiennes ne justifient en aucun cas les attaques russes aveugles. Le rapport publié ce jeudi estime que ces bases arrières ukrainiennes étaient situées à des kilomètres de la ligne de front et qu'elles ont accentué le danger pour les populations civiles.
On part dans le Pacifique et 2 ans et demi après le début de l'épidémie de coronavirus, la Nouvelle-Zélande a totalement rouvert ses frontières pour tous les voyageurs, qu'ils soient touristes ou travailleurs. Le gouvernement de Jacinda Ardern a d'ailleurs annoncé des changements dans sa politique d'immigration. Objectif, faire face à la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs. À Wellington, la correspondance de Richard Tindiller.
Aucun secteur n'est épargné par cette pénurie de travailleurs en Nouvelle-Zélande. Mais le domaine de la santé reste la priorité du gouvernement. Le pays manque de 10 000 infirmières et 1 500 médecins généralistes. Un plan de 8 millions d'euros a été annoncé pour faciliter la venue d'infirmiers et de docteurs depuis l'étranger. Mais pour Sarah Dalton, présidente de l'Association des salariés médicaux en Nouvelle-Zélande, cette mesure reste insuffisante.
Et toutes ces mesures dans cette annonce vont dans la bonne direction, mais nous avons sans doute besoin d'une centaine d'autres annonces dans ce genre. La situation est telle que nos prédictions montrent que certains patients atteints de cancer ne bénéficieront pas d'un traitement qui pourrait leur sauver la vie, car la pénurie est trop importante sur certains métiers comme radio-oncologue ou radiothérapeute.
Même son de cloche pour le secteur de la construction. Julian Lees dirige la Fédération néo-zélandaise de l'industrie du bâtiment. Pour lui, cette pénurie représente le plus grand défi de ces dernières années.
Il manque près de 30 000 travailleurs qualifiés dans le secteur de la construction. Du coup, de nombreux projets n'ont pas pu débuter. Cette année, on estime que 20 à 30% des chantiers ont été soit retardés, soit annulés.
Après s'être coupé du monde pendant plus de 2 ans afin de se protéger du virus, la Nouvelle-Zélande a perdu plus d'un quart de ses travailleurs immigrés.
C'est l'heure de la météo et on fait un point sur le temps en Australie. À Perth, il pleut 17 degrés. À Adelaide, il pleut également 14 degrés. Melbourne, 15. Hobart, 10 degrés. Il pleut. Canberra, il pleut 12 degrés. À Sydney, il y a du soleil, 20 degrés. Brisbane, on retourne à la pluie, 25 degrés. Du soleil pour Cairns, 30 degrés. Du soleil pour Darwin, 31 degrés. Le rappel des titres. Pékin met ses menaces à exécution et s'en prend aux États-Unis après la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Regain de tension dans la bande de Gaza, plusieurs morts dont une enfant et un chef djihadiste. Et enfin, la Turquie et la Russie favorables à un rapprochement de leur pays, tandis qu'en Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporijjia est visée par des tirs.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez sur SBS French tout de suite, l'édition des sports, et on parle bien sûr de la reprise de la Ligue 1. Le journal des sports de ce samedi 6 août 2022, on débute avec du football et la première journée de la Ligue 1. Le match d'ouverture, l'Olympique Lyonnais-Ajaccio, victoire de l'OL sur le score de 2-1. Hugo Moissonnier pour Radio France Internationale.
Dans un nouvel acte teinté de nostalgie côté lyonnais, pour le meilleur et le moins bon, on va dire, c'est Alexandre Lacazette, enfant du club, l'OL, capitaine, buteur emblématique au milieu des années 2010, revenu à la maison cet été après un exil de plusieurs saisons à Arsenal en Angleterre, qui en quelque sorte assure la victoire à l'OL sur pénalty. La belle histoire, le pénalty de Lacazette après l'ouverture du score du Brésilien Tété avant le quart d'heure de jeu, le premier but de la Ligue 1 cette saison. Mais l'OL reste l'OL, joue à se faire peur quand tout sourit, c'est un peu la grande spécialité du club. Anthony Lopez, le portier lyonnais, revient à ses mauvaises habitudes, sortie dangereuse, expulsion, pénalty, réduction de l'écart côté Ajaccio. Finalement, le promu ne revient pas, le club corse finit même la rencontre à 10, lui aussi après l'expulsion d'un ancien taulier de Saint-Etienne, grand rival de Lyon, Romain Amouma. Voilà, beaucoup de clins d'œil pour cette ouverture de la saison, la victoire de Lyon contre Ajaccio 2-1.
Au programme ce soir, Strasbourg reçoit l'AS Monaco, Clermont reçoit le Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé, blessé aux adducteurs. Et demain dimanche, Toulouse reçoit Nice, Angers reçoit Nantes, Montpellier 3, Lille Auxerre, Lens Brest, Rennes Lorient. Et pour finir, l'OM, l'Olympique de Marseille, recevra à Reims. Reprise de la Ligue 1, reprise également du championnat allemand. C'était le transfert de l'année de Liverpool au Bayern Munich. L'international sénégalais Sadio Mané a joué son premier match avec ses nouvelles couleurs lors de la reprise de la Bundesliga. Antoine Grenier, RFI.
Le Sénégalais est transféré cet été de Liverpool au Bayern Munich, arrivé salué par les supporters qui se sont rués sur les maillots floqués à son nom. Mané, dont la tâche principale sera de remplacer Robert Lewandowski, parti à Barcelone, mais il faudra pour ça chasser les doutes qui entourent son niveau, à commencer par ceux de Michael Rummenigge, le frère de l'ancien patron du Bayern, lui-même ancien international allemand, a ainsi, sur Sportbuzzer, considéré, je cite, « Bien sûr, Mané fera du bien à la Bundesliga et marquera des buts, mais à 30 ans, je ne le vois pas au top niveau absolu, sinon Jürgen Klopp se serait certainement battu davantage pour le garder à Liverpool », fin de citation.
En cyclisme, Tour de Pologne, dernière étape hier soir et c'est un Français, Arnaud Démare, qui l'a emporté. La victoire finale revient à Ethan Hayter, 23 ans et coureur de l'équipe Ineos Grenadier.
Yeah, to be the first British rider is actually quite strange, I guess, because there's been so many good riders before me that have gone to the top level of sport and done everything. So it's special and to be honest, our team has done very well here in the past, so it's nice to keep that going.
Cyclisme toujours et cette nouvelle qui risque de faire grincer des dents. Ils attendaient avec impatience l'occasion de célébrer au bord des routes leur nouvelle idole, Jonas Vingegaard. Eh bien, les Danois n'auront finalement pas le droit à cette chance. Jumbo-Visma a indiqué que le vainqueur de la 109e édition de la Grande Boucle ne serait finalement pas au départ du Tour de Danemark qui va avoir lieu du 16 au 20 août prochain. En MotoGP, Grand Prix cette semaine en Angleterre et le Français Fabio Quartararo, champion du monde en titre et leader du championnat, arrive confiant, on l'écoute.
Ici, comme en Autriche, Misano, c'est des circuits qui vont très bien pour nous. Donc bien sûr, idéalement, ça serait bien de marquer des gros points, mais il ne faut pas se prendre la tête et surtout ne pas penser à l'erreur qu'on a fait à Seine. Partir sur de nouvelles bases et essayer de donner notre maximum.
Avec quand même un long cap effectué lors de la course dimanche. On imagine que vous avez réfléchi, comment vous l'appréhendez ça?
Je ne l'appréhende pas du tout. Surtout essayer de faire le meilleur job possible pendant les essais, avoir le meilleur rythme possible. Puis on verra ce que ça donne pendant les essais et la course, mais je sens qu'on peut très bien se battre pour la victoire, même avec un long lap.
Un mot de tennis à présent, Antoine Grenier de Radio France Internationale nous parle du tournoi hommes au Mexique et des dames aux États-Unis.
Tournoi WTA 500 de San José en Californie et Coco Gauff, finaliste du dernier Roland-Garros, s'offre l'ancienne numéro 1 mondiale Naomi Osaka. L'américaine remporte sans problème en 2-7 leur confrontation du deuxième tour, 6-4-6-4. Chez les hommes, à Los Cabos au Mexique, Félix Auger-Aliassime rejoint les quarts de finale. Le Canadien a dominé en 2-7 l'américain Steve Johnson, 6-4-7-6. À noter qu'un peu plus tôt, toujours à Los Cabos, Daniil Medvedev, le numéro 1 mondial, a lui aussi rejoint les quarts de finale en dominant 6-2-6-2 le lituanien Richardas Berankis.
Et on termine ce journal avec du football australien, l'AFL et Collingwood a battu Melbourne de 7 points au MCG à Melbourne donc. Cette victoire est la 11e victoire consécutive des Pies et de ce fait, ils deviennent les favoris pour la victoire finale en septembre avec seulement 2 matchs à jouer pour la saison régulière. On écoute l'entraîneur de Collingwood, Craig McRae.
I was really proud of the group's last 4 or 5 minutes. We just went into autopilot of knowing what we needed to do in that situation. We just closed the game down. We've had a lot of practice of this, but the ability for the group just to look so connected. We're trying to be in tune with each other, and that was the best execution we've done in that critical stage.
C'est la fin de cette édition des sports. Merci de l'avoir suivi. C'était la chanson Ta priorité interprétée par Sena Manotte. On le disait en sommaire, comme chaque samedi, c'est l'heure de la rétrospective. Léo Roussel nous fait voyager aujourd'hui en 1945, le 6 août 1945, pour revivre une des journées les plus sombres de l'histoire. Nous sommes le 6 août et comme chaque samedi, c'est l'heure de notre rétrospective. Aujourd'hui, nous allons revenir en 1945. Le 6 août 1945, donc, la bombe atomique était utilisée pour la première fois de l'histoire. Au Japon, les États-Unis larguent ce qui reste encore l'arme la plus destructrice au monde et rayé presque entièrement de la carte la ville d'Hiroshima. Retour sur l'utilisation plus que controversée de l'arme nucléaire avec Léo Roussel et des archives sonores de l'Institut National de l'audiovisuel.
L'Allemagne avait succombé. Seul le Japon résistait encore. Et le 6 août 1945, l'Amérique lançait une première bombe atomique sur Hiroshima. Le colonel Paul Tibbets, pilote de l'avion, pouvait envoyer ce simple message « Vu la ville, les détruits ».
Le 6 août 1945, les États-Unis entraient tristement dans l'histoire en devenant le premier pays au monde à faire usage de la bombe atomique lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors vous venez de l'écouter sur cet extrait de documentaire présenté par l'ORTF en France en 1965. C'est la ville d'Hiroshima au Japon qui fut la première détruite par une bombe nommée Little Boy. Dans la nuit à 2h45, un avion américain, un Boeing B-29 répondant au nom d'Enola Gay, quitte l'île de Tinian où se trouve une importante base aérienne américaine avec à son bord une bombe aux capacités de destruction effrayantes. 3 mètres de long, 71 cm de diamètre, un poids de 4400 kg, dont 64 kg d'uranium-235. Il est 8h15 au Japon quand la bombe est larguée au-dessus d'Hiroshima puis explose, détruisant tout sur son passage, tuant instantanément des dizaines de milliers de civils sans le moindre avertissement.
Hiroshima avait cessé d'exister. En quelques secondes, des milliers de personnes furent brûlées, tandis que les maisons, les usines, les murs s'aplatissaient comme des châteaux de cartes. Les arbres disparaissaient dans les flammes, l'herbe flambait comme de la paille.
Les dégâts sont énormes, on estime aujourd'hui que plus de 140 000 personnes ont été tuées par les effets destructeurs de la bombe. La ville comptait à l'époque 350 000 habitants. Les décès sont causés par le souffle de l'explosion et par une chaleur extrême, par des incendies, mais aussi indirectement à cause de l'exposition aux radiations. Plusieurs années encore après l'explosion de Little Boy, les dégâts sont encore terribles à Hiroshima, comme l'explique cet autre extrait de l'ORTF diffusé en 1955, soit 10 ans après le premier largage d'une bombe atomique sur l'homme.
Aujourd'hui, la vie s'est réinstallée dans Hiroshima reconstruite. Mais les traces de l'effroyable explosion restent marquées dans la chair des 4000 personnes qui sont encore en observation. Et le nom d'Hiroshima demeure un avertissement à la conscience des hommes.
L'utilisation de l'arme nucléaire, le président américain Truman l'a approuvé dès le 21 juillet, alors que les combats de la Seconde Guerre mondiale ont cessé en Europe au printemps. Seuls le Japon et les États-Unis continuent de s'affronter à Okinawa. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine demandent le 26 juillet 1945 la capitulation du Japon, seul pays encore en lutte contre les Alliés. Un ultimatum que va refuser l'empereur Hirohito. Les Américains ont développé l'arme ultime au cours de la Seconde Guerre mondiale au cours du projet Manhattan qui visait à produire la bombe nucléaire. Ce projet, il aboutit à un premier test grandeur nature au Nouveau-Mexique aux États-Unis le 16 juillet 1945. Un test concluant pour les autorités américaines qui font livrer 10 jours plus tard le 26 juillet deux bombes sur l'île de Tinian grâce à leur croiseur, l'USS Indianapolis, qui sera lui torpillé et coulé par un sous-marin japonais 4 jours plus tard. Le 30 juillet 1945, seuls 317 des 1197 marins à bord de l'USS Indianapolis survivront. Mais les deux bombes atomiques livrées à Tinian par l'USS Indianapolis vont, elles, causer encore plus de dégâts. La première est Little Boy, donc larguée sur Hiroshima. La seconde est Fat Man et frappera le 9 août la ville de Nagasaki, tuant cette fois près de 74 000 personnes. Le lendemain du largage de Little Boy sur Hiroshima, Washington se félicite du succès de l'opération. Et le 15 août, l'empereur Hirohito annonce la capitulation du Japon, mettant officiellement fin à la Seconde Guerre mondiale. La reddition est signée le 2 septembre. Alors ces deux utilisations de la bombe nucléaire sont à ce jour les deux seules de l'histoire sur l'être humain. Mais encore aujourd'hui, en 2022, l'usage de la bombe nucléaire à cette époque questionne. Comment justifier le meurtre de plus de 200 000 personnes en l'espace de 3 jours, sans compter les conséquences sur les survivants et leurs descendants, le tout à la force de deux seules bombes, deux attaques qui symbolisent la force cruelle et destructrice de l'homme, depuis lors conscient de sa capacité d'autodestruction. En 2016, alors président des États-Unis, Barack Obama était devenu le premier président américain à se rendre à Hiroshima, reçu par le premier ministre japonais de l'époque, Shinzo Abe, sans pour autant présenter d'excuses au Japon ni même remettre en question la décision de Truman en 1945. Il appelait à un monde sans armes nucléaires.
On en parlait également en sommaire, Europa Voice numéro 102, la deuxième partie consacrée à l'Italie. Le Premier ministre Mario Draghi a démissionné. Qu'est-ce que cela signifie pour le pays? On en parle avec Nathanaël Bloch. Europa Voice numéro 102, c'est dans un instant. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Marianne.
Nathanaël, lors du dernier numéro, on disait Boris Johnson n'est plus. Eh bien, on recommence pour cet épisode. Mario Draghi n'est plus Nathanaël. Le président du Conseil italien a démissionné. Qu'est-ce qu'il s'est passé?
Alors effectivement, Marianne, on perd encore en Europe après Boris Johnson, après Angela Merkel, un Européen à la fois convaincu, mais un Européen, je dirais aussi, de première importance, parce qu'il faut le rappeler pour nos auditeurs d'Europa Voice, Mario Draghi, c'était en plus d'être le Premier ministre de l'Italie, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, et donc il avait participé à remettre un petit peu l'Italie sur les rails de la prospérité économique en Europe. Donc effectivement, à la fois l'Italie perd son premier ministre et replonge dans une instabilité politique qu'elle a connue ces dernières années, mais en plus de ça, au niveau européen, il y a quand même une inquiétude qui se dessine, parce que, encore une fois, les pro-européens, en tout cas ceux qui croient au projet européen, se comptent maintenant peut-être désormais à peine sur les doigts de deux mains au sein de l'Europe. Donc ça, c'est pour le contexte un peu général autour de Mario Draghi et de sa démission. Ce qui s'est passé, Marianne, c'est tout simplement que l'Italie était assise sur une coalition qui, déjà lorsqu'elle s'était formée, était assez bancale. Et puis là, on a eu en fait les partis de droite, d'extrême droite, ceux de Silvio Berlusconi, de la Ligue, de parti de Matteo Salvini, qui ont refusé de participer à un vote de confiance demandé par Mario Draghi au Sénat, et c'est ce qui a enclenché ou déclenché plutôt la démission du Premier ministre, malgré, et ça c'est important de le signaler, malgré les tentatives répétées du président italien Sergio Mattarella de refuser la démission et de faire en sorte que Mario Draghi reste aux commandes. Mais malgré cela, on a une démission du Premier ministre et des élections anticipées à venir fin du mois de septembre.
Oui, parce que Mario Draghi avait été appelé à la rescousse pour former un nouveau gouvernement. Est-ce que du coup, c'est un échec?
Alors, c'est pas un échec, Marianne, dans le sens où, en fait, il avait réussi quand même à garantir une stabilité, d'une certaine façon, avec un gouvernement. Ce que les Italiens veulent absolument éviter, j'allais dire, c'est à la fois ce qui se passe, et pour moi, c'est une espèce de mélange entre ce qui peut se passer en Israël, à la Knesset, et en Belgique. C'est-à-dire à la fois d'avoir des coalitions qui sont tellement instables que c'est difficile de former une majorité. Ça, c'est ce qui se passe à la Knesset, où on a des partis qui ont tellement des objectifs opposés que on les réunit sur des points d'accord qui, en fait, sont extrêmement fragiles. Ça, c'est le premier écueil, en fait, que les Italiens voulaient éviter. Puis le deuxième écueil, surtout, c'est de se retrouver sans gouvernement, parce que les partis au Parlement sont pas capables de s'accorder. Donc, d'une certaine façon, on peut pas dire que c'est un échec. D'autant plus, Marianne, et encore une fois, sans lire dans les boules de cristal, que ce qui va sûrement se passer en Italie, c'est qu'après ces élections, on va avoir le retour d'un Parlement beaucoup plus stable avec, il semblerait, même s'ils se qualifient eux-mêmes de centre-droit, une droite assez dure qui elle-même sera composée de plusieurs partis de droite qui arrivera au gouvernement. Donc en fait, on peut dire que ce n'est pas un échec parce que Mario Draghi a assuré la transition et le fait que les affaires courantes puissent continuer à être expédiées d'une manière correcte cette dernière année. Maintenant, ce n'est pas non plus une victoire totale parce qu'on risque de se retrouver en Italie comme on l'avait eu il y a quelques années avec un gouvernement avec une forte couleur politique de droite.
Là, on parle des conséquences pour l'Italie. Vous l'avez un petit peu abordé, il y a aussi les conséquences pour l'Europe. Est-ce qu'il faut craindre des turbulences au sein de l'Union européenne ?
La première chose qu'on peut dire, c'est qu'on a eu quand même des fortes réactions au niveau des responsables européens à la suite de la démission de Mario Draghi. Je vais en citer quelques-unes. On a eu par exemple le commissaire au marché intérieur, qu'on connaît bien, Thierry Breton, qui a dit que l'Europe a besoin de dirigeants comme Mario Draghi. Donc ça, c'est la version plutôt, j'allais dire, positive. Mais on a eu d'autres déclarations où véritablement on a pu voir une inquiétude de la part de dirigeants européens à la suite de la démission de Mario Draghi, pour plein de raisons. Hein. D'abord parce que l'Europe est en train de traverser une phase elle-même de turbulence, et donc on n'a pas forcément besoin d'avoir de l'instabilité au niveau des pays. Je pense à deux événements qui concomitants, c'est à la fois la guerre en Ukraine et l'inflation, conséquence de cette guerre en Ukraine qui traverse l'Europe. Donc ça, c'est la première chose, c'est que l'instabilité en Italie arrive à un moment où il y a une instabilité au niveau européen. Ensuite, il faut pas l'oublier, hein, on parle d'un pays qui a une dette extrêmement importante, et donc il y a une peur au niveau des Européens de la réaction des marchés. On n'est pas dans la situation de la Grèce, mais il y a quand même toujours ça, il y a quand même ce sauvetage de la Grèce qui est en tête de tous les dirigeants européens, et donc c'est aussi cette crainte-là de voir un pays, qui plus est un pays historique de l'Union européenne, sombrer dans une crise financière pour laquelle les pays européens devront venir à la rescousse. Et je dis cela aussi parce que, rappelez-vous, on avait parlé des négociations qu'il y avait eu au sein des pays européens, notamment avec les pays frugaux, l'Autriche, les pays du Nord, à propos de la dette et des capacités d'emprunt, et de savoir en fait si on devait permettre à ces pays-là, plutôt du sud de l'Europe, d'emprunter avec une mutualisation de la dette. L'Italie compte beaucoup sur ça. Et donc c'est encore en plus un facteur d'instabilité et un facteur de dissension au sein de l'Europe entre des pays dits plutôt frugaux, qui ne sont pas vers une mutualisation des dettes, des subventions, versus des pays qui en ont besoin, comme c'est le cas pour l'Italie.
Et est-ce que ça peut avoir aussi des conséquences immédiates pour l'économie française ?
Alors bien sûr, ça peut avoir des conséquences, Marianne, pour l'économie française. D'abord parce que c'est un pays limitrophe, et donc forcément s'il y a une crise financière ou une crise qui a des impacts en Italie, ça peut avoir des conséquences sur le commerce entre les deux pays, mais aussi tout simplement en termes de pouvoir d'achat dont les Italiens vont pâtir. Mais ça peut surtout avoir des conséquences aussi parce que il y a des projets entre les deux pays, il y a des projets qui sont plus ou moins acceptés, puis il y a aussi des projets avec des grandes dissensions. Je prends là, j'ai en tête les grands projets d'infrastructure, Marianne, autour du Lyon-Turin. Évidemment, vous mettez tout ça en suspens, et donc ça peut avoir des conséquences immédiates, ou en tout cas de moyen terme, entre l'Italie et la France. Et puis, juste pour se tenir aux déclarations officielles, Marianne, pour Emmanuel Macron, c'est véritablement la perte d'un allié au sein de l'Union européenne, parce que encore une fois, on avait un pro-européen convaincu, et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et si c'est un retour de partis de droite, voire d'extrême droite, comme avec la Ligue, comme avec même la droite de Berlusconi, le mouvement 5 étoiles, évidemment, les relations bilatérales entre les deux pays ne seront plus les mêmes. C'est encore trop tôt, Marianne, pour le dire, parce qu'encore une fois, il y a les élections anticipées le 25 septembre, mais en tout cas, c'est effectivement un facteur d'inquiétude. Et puis, sur ce point-là de la dissolution, Marianne, et des élections, je veux aussi souligner qu'il a été fait tout en Italie pour qu'il n'y ait pas cette dissolution. Ça a été véritablement...
Dissolution du Parlement.
Dissolution, pardon, du Parlement. Ça a été véritablement un objectif du président italien Sergio Mattarella, c'est d'éviter cette dissolution. Mais là, on était arrivé à une situation où c'était tout simplement impossible. Il fallait que le président dissolve et permette à une nouvelle majorité claire, quitte à avoir des coalitions, malheureusement des fois contre nature, de pouvoir émerger à la fin de l'année.
Le 25 septembre, pour les élections anticipées, ça laisse pas beaucoup de temps aux partis pour se préparer. On n'a pas d'idée de qui pourrait succéder à Mario Draghi. C'est encore impossible d'y voir clair.
Alors du côté de la gauche, Marianne, on a véritablement un mouvement en lambeaux. Enfin, c'est terrible, mais c'est presque un parallèle avec la gauche de gouvernement, si je peux plus l'appeler ainsi, en France. Donc on a une gauche pour l'instant qui n'est pas, vue pour être un parti de gouvernement, en tout cas pour mener un gouvernement. Non, ce qui est en train de se dessiner, encore une fois, c'est plutôt des partis de droite, qui se font appeler de centre droit, mais c'est vraiment des partis plutôt de droite et d'extrême droite. La question, c'est de savoir si les différentes composantes de cette droite dure arriveront à s'entendre. d'abord sur des questions de leadership. Comme dans toute alliance, y a toujours un des leaders qui doit faire des concessions. Mais après, même sur les questions, j'allais dire, plus propres à l'Italie elle-même, sur par exemple les questions de la centralisation versus la décentralisation, les questions de d'unité du territoire, etc. C'est là où véritablement on va voir si les partis de droite arriveront à se mettre ensemble. Et puis il y a déjà quand même des petits indicateurs, ce qu'on appelle en communication de crise des signaux faibles. On a déjà eu quand même certains membres des partis de droite qui ont démissionné pour justement rejeter le fait que ces partis-là n'ont pas voté la confiance à Mario Draghi. Donc même du côté de l'extrême droite, qui est la plus propice d'arriver en tête et d'être aux manettes à fin septembre, il y a encore besoin de ces négociations, comme vous l'avez indiqué, dans un laps de temps extrêmement court, Marianne.
C'était Europa Voice numéro 102. Merci, Nathanaël.
Merci, Marianne.
Le mariage forcé par star féminine bande. On en vient à la dernière partie de notre émission. Thomas Mercier a rencontré Pierre-Jacques Aubert, auteur de petites histoires à travers des figurines placées dans des décors miniatures. Interview.
Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
Auteur de plusieurs livres, il recrée des scènes historiques dans son livre via des petits personnages qui sont peints. Il en est déjà à son deuxième livre, il prépare actuellement le troisième. On reçoit Pierre-Jacques Aubert. Bonjour Pierre-Jacques.
Bonjour.
Alors en quoi consistent vos livres? En fait, vous avez des petits personnages en miniature, vous les peignez, ils sont pris en photo, vous racontez une histoire. À quel genre littéraire vous identifiez-vous?
On n'a pas de nom particulier pour ce que l'on fait. On a commencé en anglais à l'appeler paper movie, parce qu'en fait c'est comme des storyboards de films en images, en photographie. En France, c'est appelé tout simplement des albums jeunesse. En fait, ça fait partie d'une longue tradition qui a commencé en 1866 d'utilisation de la photo pour illustrer la littérature jeunesse. Quelque chose que je ne savais pas quand on a commencé, que j'ai découvert récemment. C'est un genre qui a été très, très en faveur jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Les plus grands artistes, les plus grands photographes ont tous fait des livres pour la jeunesse à partir de photographies. Puis ensuite, l'illustration, à partir des années 50, a pris le dessus. C'est tombé un petit peu en oubliant désuétude. Ce qu'il en est resté, en fait, c'était les romans photos de gare hein, dans les années 60-70.
J'osais pas le dire.
Et puis nous, on est en train, en fait, sans le savoir ou le vouloir, de faire renaître une longue vieille tradition. Voilà. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est... moi, j'ai toujours été... Je suis fils de militaire... d'une vieille famille de militaires de génération en génération. Donc depuis tout petit, j'habitais dans des casernes, je regardais mon père défiler. Et dans ma chambre, je reproduisais ça avec des petits soldats. Ensuite, en grandissant, j'ai continué à faire justement, à peindre des petits soldats, plus comme quelque chose pour me relaxer, pour me vider la tête, portant l'attention plutôt pour les costumes colorés. Donc c'était un aspect visuel. J'ai eu une carrière dans l'audiovisuel et c'était un peu avant 2014, j'ai eu une idée de faire un cadeau un peu spécial pour les 80 ans de mon père, en l'honneur de son propre père, donc de mon grand-père que je n'ai jamais connu, il est mort avant que je sois né, et qui avait participé et qui est un des héros avec le plus de médailles de la guerre 14. Donc j'ai fait quelques images de soldats que j'avais, images que mon épouse a prises, donc elle étant photographe, tout à coup j'ai été complètement émerveillé du pouvoir des images, et on s'est pris au jeu et on a fini par faire une histoire complète qui a été publiée, qui a eu du succès, et puis maintenant on continue, voilà.
Oui, parce que vous avez une des histoires d'ailleurs qui a reçu le prix HIP Livre Jeunesse en 2021, le livre qui s'appelle Jacqueline, où justement vous recréez ces scènes lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est bien ça?
C'est ça, là c'était tiré des mémoires de ma mère, on raconte ce qui est arrivé à ma mère entre l'âge de 7 et 12 ans, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. On cherchait une histoire avec une happy ending, parce que le premier livre est un peu triste. Et puis bon, nos livres ont la guerre comme fond, mais c'est pas des livres de guerre ou sur la guerre, c'est pendant la guerre. Et ce que ça fait aux gens, les conséquences de la guerre pour les gens normaux. Donc c'est avec un message quand même, la paix c'est bien mieux.
Alors juste pour resituer, vous avez ces petits personnages qui sont peints d'une finesse assez incroyable, vous avez ce jeu de lumière également lors des scènes de vie que vous recréez, des vies quotidiennes dans vos livres. Et votre femme, oui, qui s'appelle Jules Aubert, elle se charge de la photo, donc de mettre tout ça en lumière, si j'ai envie de dire. Et vous écrivez l'histoire, vous êtes l'écrivain de cette histoire que vous recréez. Et donc, ces livres sont à destination de la jeunesse, essentiellement des jeunes qui peuvent apprendre ce que c'était la vie pendant ces périodes difficiles.
Voilà. En fait, le premier, c'est en fait les petits soldats eux-mêmes qui ont créé l'histoire, quelque part, parce que je les ai utilisés et j'ai sorti une histoire des figurines auxquelles j'avais accès. Le deuxième étant tiré des mémoires de ma mère, donc je suis parti à la recherche des figurines pour illustrer son histoire. Mais on travaille vraiment de manière un peu cinématographique, en fait, puisque, donc oui, j'ai l'histoire. Ensuite, il faut que je sois convaincu que je puisse la raconter avec des miniatures. C'est vrai qu'ensuite, il faut faire un casting, les peindre, prendre les décors. Mais à partir de là, en fait, Julie intervient presque comme un chef opérateur en film, c'est-à-dire que elle sait qu'elle a une scène, elle en connaît la fonction, je lui en donne les éléments, et c'est elle qui, en fonction surtout de la lumière, elle travaille, on travaille que en lumière naturelle, pour une fois de plus donner cet aspect un petit peu plus réel ou réaliste à nos images, et elle peut décider par exemple sur une scène d'intérieur d'ouvrir une fenêtre d'un côté pour avoir une lumière sur le côté, ou dépendant du... Le premier livre se passe sur 24 heures, et donc elle a décidé de travailler les images qui se passent le matin, ne se feront que le matin, etc. Et le deuxième, bon, ça passe sur 5 ans et dans des endroits différents, des lumières d'Afrique du Nord sont différentes des lumières d'Alsace, donc on a vraiment pris tout ça en compte pour donner cette espèce d'impression diffuse de pseudo-réalité à nos images.
Combien de temps ça prend pour organiser tout ce montage, de peindre les personnages, de les prendre en photo, d'écrire l'histoire, combien de temps ça vous prend début jusqu'à la fin?
Il faut penser de 18 mois à 2 ans. Le premier a pris un peu plus longtemps, puisqu'on c'était de l'expérimentation totale. On a hésité, est-ce qu'on en fait une bande dessinée? Donc on a commencé avec découpage bande dessinée et des dialogues, mais les images de Jules étaient tellement magnifiques que ça m'embêtait de mettre des bulles blanches au milieu, donc on les a enlevées, on a mis le texte en dessous pour laisser les images respirer, pour ne pas les altérer. Et le deuxième, oui, pareil, 18 mois. Donc on devient de plus en plus efficace. Après, la période la plus longue, c'est pour trouver les figurines, en fait. Notre troisième livre va se passer pendant le 18e siècle. Donc autant Deuxième Guerre mondiale dans le monde de la maquette, il y a quand même pas mal de choses. C'est très couvert, mais le 18e siècle, beaucoup moins. Donc en fait, je suis passé à un niveau supérieur au niveau de la figurine. Donc au lieu de trouver des figurines qu'on achète soit aux marchands de jouets ou dans les magasins de maquettes, c'est des figurines de collection. Voilà, des figurines de plomb, de collection. Et elles viennent de Russie, de Madagascar. J'ai fait sortir de sa retraite un vieux monsieur qui faisait des figurines de plomb à Leipzig, en Allemagne, pour le projet. Donc, toute cette période-là a été bien longue, interrompue par Covid, qui ne facilitait pas. Quand on travaille d'Australie, tout vient de loin. Donc, le postage est très cher. Et avec Covid, c'était très long, quoi. Donc, voilà. Mais je pense qu'en règle générale, on peut compter 18 mois de l'idée au rendu des fichiers.
Alors, vous évoquiez justement le monde de la maquette. Est-ce que vous étiez un passionné à la base de maquette?
Oui. Mais j'ai toujours aimé les petits soldats, puisque je viens d'une vieille famille de militaires et que j'ai passé mon enfance dans les casernes à regarder mon père défiler, à jouer entre les chars et les camions. Et puis, je refaisais ça en miniature dans ma chambre, naturellement. Ensuite, j'ai gardé cet intérêt pour les petits soldats comme un moyen d'évasion, c'est-à-dire de passer une heure en fin de journée à peindre des petits soldats comme une espèce de relaxation. Voilà, donc je suis passé de hobby à activité principale professionnelle.
Merci Pierre-Jacques, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Vous pouvez retrouver toutes les informations au sujet des livres de Pierre-Jacques et de sa femme Jules sur le site internet littlesoldierstory.com.
Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
On m'a dit Colline Rio, il est 13h57 sur SBS French, l'heure du rappel des titres. Pékin ne décolère pas après la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Les exercices militaires continuent dans le détroit et la Chine s'en prend directement à la chef des députés américains. Des échanges de tirs entre la bande de Gaza et Israël, plusieurs morts dont une enfant et un chef djihadiste. La Turquie et la Russie favorables à un rapprochement de leur pays, tandis que Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de viser la centrale nucléaire de Zaporijjia. Et Volodymyr Zelensky qui réagit aux accusations d'Amnesty International. Et du sport avec la victoire de l'Olympique Lyonnais sur l'AC Ajaccio en match d'ouverture de la reprise de Ligue 1 de buts à 1. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Je m'appelle Marianne Murat. J'ai été ravie de passer cette heure en votre compagnie. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain, même fréquence, même heure, avec Jean-Noël Ducasse. Je vous souhaite de passer un excellent samedi, un très bon week-end. Et je vous laisse sur cette chanson de Moby, Porcelain. Bonne journée.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.